Micro-Rebelle Reportage, c'est le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro-Rebelle Reportage, à écouter sur microrebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités, vos suggestions, vos idées, toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Micro-Rebelle reportage. Nous poursuivons et nous terminons aujourd'hui notre série consacrée à l'agriculture paysanne. Cela fait 2 semaines maintenant que nous sommes en compagnie de Jean-Luc Malpeau. Nous avons parcouru avec lui plusieurs dizaines d'années d'activité professionnelle au sein de sa ferme et, parallèlement, plusieurs dizaines d'années de lutte pour la reconnaissance de l'agriculture paysanne, des luttes menées dans le cadre des associations du réseau paysan et du combat syndical avec la Confédération paysanne. Tout à l'heure, Jean-Luc reviendra justement sur ces différentes associations et mouvements. Auparavant, comme lors de nos 2 premières émissions, je vous propose un premier témoignage et vous laisse donc avec Olivier.
Bonjour, Olivier Petit. Donc, je démarre une activité de maraîchage biologique sur la commune de Coutiches, à côté d'Orchy, dans le Nord. J'ai démarré cette année, accompagné par la couveuse d'A Petit Pas. Donc, je produis des légumes et un peu de fruits aussi, puisque j'ai un verger de 5000 m² qui était déjà planté. Donc j'ai eu l'occasion d'acheter un terrain à côté de chez moi, d'une surface totale de 4 hectares, et je produis aujourd'hui sur à peu près 1 hectare en tout, le reste étant en prairie naturelle.
Alors tu évoques le fait que tu rentres en couveuse, ça veut dire que c'est aussi une période d'accompagnement et de formation, donc c'est pas ton métier d'origine, tu n'es pas d'une famille agricole. Hein.
Donc c'est un projet de reconversion professionnelle. C'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis très très longtemps. Et là, j'ai eu une prise de conscience qui m'a permis de me lancer réellement et de tester cette activité, tout en continuant mon activité d'origine, qui est je travaille dans l'informatique, donc un domaine qui n'a rien à voir. Et jusqu'à maintenant, je faisais plutôt du jardinage par passion. Et c'est ce qui me motivait dans ma semaine. Donc je me suis dit à un moment, je vais essayer de faire l'inverse, de faire un maximum de travail à l'extérieur. Et puis l'informatique, ça sera peut-être une activité secondaire. Donc c'est ce que j'essaye de faire et de jongler entre deux plannings et 2 activités complètement différente.
Passer d'une passion, hein, le jardinage, à une activité professionnelle qui serait le maraîchage avec des débouchés commerciaux, c'est pas la même dimension quand même.
Tout à fait. C'est aussi pour ça que je voulais faire le test avec la couveuse. Ça permet vraiment de valider que ce changement qui n'est pas anodin, hein, de dimension et de pression aussi, puisqu'on a On a la nécessité de produire et d'être, si possible, rentable, ce qui n'est pas du tout la même chose quand on jardine chez soi. Donc j'avais déjà fait le test en passant en BPREA et en suivant un stage sur toute une année pour voir si déjà j'avais toujours autant d'intérêt à faire ça toute l'année, quelles que soient les conditions météo et à une dimension beaucoup plus importante que dans mon petit jardin. Donc l'année de stage m'a permis de voir que j'étais toujours autant motivé, et j'ai franchi le pas de créer ma propre activité tout en étant couveuse, donc en me laissant la possibilité de valider que c'est la bonne voie et qu'il faut poursuivre.
Alors sur la question des débouchés commerciaux, c'est quel type de circuit de vente? Tu as une partie maraîchage, une partie fruitier, c'est ça?
Voilà, un peu de fruits, un peu de maraîchage. Les fruitiers étaient déjà présents sur le terrain pour une bonne partie, donc je continue de les exploiter. On fait beaucoup de transformations de fruits en confiture notamment. Et puis les légumes, une gamme de légumes variés, une trentaine de légumes différents sur toute l'année. Et le circuit de vente, pour l'instant, c'est une petite production, puisqu'on est en activité à temps partiel. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vingtaine de clients. Donc c'est pas compliqué à trouver. Les premiers clients, c'est toujours les plus faciles. Donc on a un petit réseau de clients fidèles qui grossit de semaine en semaine, à qui on envoie toutes les semaines un mail avec la disponibilité en légumes. Et ces clients passent commande et on livre aujourd'hui à deux endroits différents les commandes qui sont reçues toute la semaine.
Pas à la ferme, donc sur des points de vente, mais pas à la ferme.
Ah, il y a deux points de vente plus à la ferme pour ceux qui sont à proximité. Mais sur deux points de vente, on a des consommateurs qui se sont un peu réunis et qui sont motivés pour soutenir ce type de projet. Donc ça fait deux grosses commandes sur la semaine.
Donc moi je connais pas Couty, c'est quoi, c'est urbain ou c'est rural?
Alors c'est ce qu'on appelle semi-urbain, c'est plutôt la banlieue lilloise, on est à une trentaine de kilomètres de Lille, donc c'est plutôt des gens assez citadins qui sont venus s'installer à la campagne pour une vie de famille généralement, hein. Donc on est des résidences familiales généralement, et puis c'est plutôt une population on va dire assez aisée avec un pouvoir d'achat intéressant, donc des gens qui potentiellement on va dire sont intéressés par des légumes de qualité et en agriculture biologique.
Très bien. Et donc ce qui les motive, c'est ces aspects là principalement, mais le projet en tant que tel, ton projet personnel, tu leur en parles?
Oui, alors moi le projet il est à multiples vocations, hein. c'est non seulement de faire quelque chose qui me plaise dans la vie, c'est travailler avec passion, mais c'est aussi un projet qui va au-delà de ça, qui est lié à la protection de l'environnement. L'objectif, c'est de produire localement, de vendre localement, d'éviter les transits de légumes venant d'Espagne ou du Maroc. Donc c'est aussi dans un objectif de développement de la biodiversité. Sur le terrain, on a plein de projets pour mettre en place un équilibre. L'objectif, ça serait d'arriver à un équilibre dans la gestion par exemple des prédateurs ou de tout ce qui va pouvoir entrer en concurrence avec les cultures.
C'est quoi, c'est du lièvre, c'est quoi, c'est...
Voilà, donc c'est on ça. Va essayer de mettre en place des haies pour développer pour que les oiseaux puissent se développer, nicher et puis venir manger les petits insectes qui nous posent problème. On a créé une mare qui permet d'abriter toute une faune et une flore des milieux humides. Le tout, c'est d'essayer d'arriver au lieu d'utiliser des produits chimiques, et de créer des déséquilibres, c'est d'essayer d'arriver à un équilibre naturel tel qu'on peut le trouver dans les milieux complètement naturels.
Très bien, alors je vais peut-être m'orienter vers un autre type de question. Tu évoquais la ferme, enfin l'exploitation, 4 hectares. C'était facile pour obtenir ce foncier? Comment ça s'est passé? Enfin, c'est...
Ah bah c'est très compliqué, surtout dans ce secteur-là. C'est un peu partout dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est très recherché. Les terres agricoles sont très demandées. Et n'étant pas du milieu agricole, c'est encore plus compliqué. Toutes les portes sont fermées. C'est un milieu vraiment particulier et on a cherché pendant 3-4 ans un terrain disponible. Et au moment où on allait presque abandonner, là, il y a une porte qui s'est ouverte finalement juste à côté, hein, une opportunité qui est un peu tombée du ciel. À 800 mètres de là où on habite, il y avait une ferme en vente avec un terrain de 4 hectares. Au départ, on voulait acheter l'ensemble, mais le prix de l'immobilier local ne nous a pas permis d'acheter la partie bâtiment. Et par contre, les propriétaires ont accepté de nous vendre le terrain. Donc ça a été une opportunité vraiment très rare et on a saisi l'occasion.
Et sur le terrain, tu as l'irrigation, enfin, tu...
Alors sur le terrain, il n'y a rien du tout, donc c'est ça qui est un peu compliqué. C'est qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et... Donc aujourd'hui, comme on est en phase de test en couveuse, on ne peut pas non plus investir énormément. Hein, on fera le bilan en fin d'année. Donc pour l'instant, on se débrouille. On ramène de l'eau avec le tracteur. C'est un peu compliqué, mais on arrive à gérer.
Bah, oui, effectivement, il y a un aspect courageux là-dedans. Hein. Alors, peut-être sur la couveuse. Hein, donc la couveuse d'un petit pas dans la Vénois. Qu'est-ce que tu en attends? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Alors il y a plusieurs choses qui sont apportées par la couveuse. Il y a déjà un suivi du projet, donc on n'est pas tout seul. Et ça c'est une chose qui est intéressante parce que quand on démarre le projet, on a la tête dans le guidon. Donc on ne voit pas forcément des choses qui peuvent être évidentes quand on est à l'extérieur. Donc là, on a un accompagnement, quelqu'un qui nous accompagne sur le projet et qui nous embête, hein, qui nous pose des questions régulièrement sur l'activité, qui émet des hypothèses sur lesquelles on n'a pas forcément pensé, qui a un regard vraiment extérieur et toujours une critique intéressante. Et puis ensuite, y a tout l'aspect simplification des démarches. Avant de se lancer sur une activité, il est intéressant de voir, de valider si les hypothèses qu'on a émises au départ sont réalistes. Hein. On a toujours, quand on crée quelque chose, on est toujours très optimiste et on n'a pas forcément des fois un regard neutre. Donc là, la couveuse, ça permet de voir si vraiment ce qu'on a imaginé est réalisable et réaliste sans entrer dans une création avec toute la démarche administrative nécessaire qui est aussi chronophage. Donc il y a une simplification dans la démarche. On va signer un contrat CAP avec la couveuse et puis on peut tout de suite démarrer. On est couvert, on a les assurances, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir exercer son activité et se concentrer sur la production sans avoir à passer du temps sur des démarches qui sont coûteuses.
Et puis le fait d'être avec une association comme Un Petit Pas, c'est aussi l'ouverture vers d'autres...
Voilà, c'est aussi le dernier point, c'est qu'on n'est pas tout seul dans la couveuse. Y a différents porteurs de projets qui parfois sont dans des domaines d'activité très différents, mais on se rend compte qu'on a un peu les mêmes problématiques finalement, quelle que soit l'activité, le domaine. On se pose les mêmes questions au départ, quel prix mettre, est-ce que ça va pas être trop important, est-ce que les clients vont venir, quelle démarche de commercialisation, on retrouve pour chaque projet les mêmes types de questions, et on peut échanger, et donc on peut... partager des astuces parfois. Bah, moi, j'ai essayé ça, ça a bien marché, tu devrais essayer ça. On partage aussi les compétences de chacun. Donc, on a des gens qui ouvrent une activité dans la communication graphique, et bien on va pouvoir les utiliser au sein de la couveuse pour une activité agricole, par exemple, pour créer une plaquette, pour créer un support de communication. Donc il y a un échange entre couvées qui est bénéfique à chacun.
Très bien, alors je vois qu'aujourd'hui tu es avec tes enfants, Laurent et Servane. Quand on a un projet comme ça, la vie de famille, c'est important. Je pense qu'il faut qu'on ne peut pas réussir s'il n'y a pas le soutien de la famille.
Ah, tout à fait. Puisque on a prévu de laisser du temps pour la famille, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des aléas, donc on est obligé de compenser. Et souvent, on compense sur le temps, le temps de loisir, le temps de famille. Donc si on n'a pas le soutien de toute la famille, ça ne peut pas marcher. Donc c'est un point important. Et puis des petits coups de main qui permettent de se libérer aussi, des fois l'esprit, sont toujours les bienvenus. Donc c'est sûr que le projet doit nécessairement être compris de tous et puis accepté de tous.
Alors comment tu vois ton avenir maintenant? Tu penses que tu vas confirmer? Pour l'instant, ton projet se confirme, tu souhaites aller au bout?
Alors pour l'instant, tout se passe à peu près comme prévu, c'est-à-dire qu'au niveau de la production et des ventes, on arrive quasiment à ce qui avait été imaginé dans le prévisionnel. Donc ça, c'est un bon point. Là où aujourd'hui, c'est un peu plus problématique, c'est sur le temps de travail. Comme on a eu quelques soucis au démarrage technique, on a pris un peu de retard et du coup le temps à passer, on déborde, comme je disais, un peu sur des choses qui n'étaient pas prévues. Donc aujourd'hui on arrive à compenser, mais ça fait partie encore du questionnement. Et puis on fera le bilan à la fin de la saison. Fin d'année, on fera le bilan. Est-ce que c'est gérable sur le long terme? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on réduit? Est-ce qu'on augmente? Je pense que la saison de maraîchage se déroule vraiment de mars à novembre. Donc on ne peut faire que le bilan qu'à la fin. On voit le fruit de son travail qu'à la fin de la saison.
Mais l'envie de continuer est là.
Ah oui, l'envie est là. Ça confirme tout ce qu'on avait pu imaginer sur la passion qui reste présente. Comme je raconte souvent, je peux faire des journées de 12 heures, je ne les vois pas passer et je me rends compte à un moment que le soleil se couche et qu'il va falloir rentrer, mais j'ai pas du tout je vais pas regarder ma montre toute la journée. C'est parfois dur physiquement, mais c'est la seule limite, on va dire. Sinon, on peut considérer que c'est pas du travail contraint.
Et d'une manière générale, au-delà de toi, quelle vision tu as sur le monde agricole, l'agriculture paysanne? Tu es optimiste? Quand tu parles des consommateurs, on a l'impression que qu'il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant pour toi.
Que je vois chez les consommateurs, et je l'ai vu aussi au travers des diverses formations que j'ai pu faire sur les deux dernières années. On sent un changement, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout issues du monde agricole qui sont passionnées et qui font ce choix sur un type d'agriculture différent, beaucoup plus respectueux de l'environnement. On a une volonté de produire localement, des prises de conscience à la fois chez les porteurs de projets et chez les consommateurs. Et on le voit, nous, au niveau du contact qu'on a avec nos clients. Il y a des choses que je suis depuis maintenant quelques années. J'étais quasiment le seul dans mon entourage. Aujourd'hui, je peux parler de certains sujets. Les gens on a entendu parler, ça les choque pas, ça les... Donc il y a vraiment une prise de conscience un peu de l'état de la planète, ce qui se passe, et une envie d'agir. C'est ça qui... Alors ça peut être agir par un projet, ou ça peut être l'agir en achetant des produits issus de, d'un projet qui protège le, l'environnement.
Très bien, eh ben, merci Olivier, puis bon courage et bonne continuation.
Merci beaucoup.
C'était donc le témoignage d'Olivier, et nous retrouvons maintenant Jean-Luc Malpeau.
Tu as évoqué effectivement l'association Avenir, et peut-être plus largement le réseau, enfin le monde paysan, se dote d'outils, oui, d'associations, d'organisations pour avancer dans ses propres finalités. Est-ce que tu peux développer peut-être un petit peu cet aspect-là en évoquant effectivement ces différentes organisations, leurs projets, comment ça s'est passé, enfin comment tout ça s'est mis en mouvement, comment la mayonnaise elle a pris, quoi.
D'accord, donc pour notre réseau, hein, notre tendance.
C'est ça, tout à fait.
D'accord. Ouais. Donc ben, donc on a parlé de la Confédération paysanne, du CEDAPA, de la RAD, donc pour agriculteurs en difficulté. Et comme notre objectif, c'était quand même que le maximum de gens puissent accéder au métier de cultivateur, d'agriculteur, de paysan, peu importe le mot, d'une part, et qu'ensuite, il nous semblait, on pensait, on pense toujours, d'ailleurs de plus en plus, que notre avenir en tant que paysan dépendrait de ce que des gens de l'extérieur viendraient avec nous. Hein, d'ouvrir les portes, quoi. Or,
des gens d'extérieur
de l'agriculture, du milieu agricole.
Tout ça, du milieu agricole. Ouais. Okay.
Que ce soit en s'installant ou que ce soit en participant à ce qu'on faisait. Et donc, la situation à ce moment-là était celle-ci, c'est que pour s'installer, il fallait, pour s'installer, c'est-à-dire avoir droit aux prêts et aux aides. Hein. Quelqu'un qui a plein d'argent peut toujours s'installer, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas besoin d'emprunter, qu'il n'a pas besoin de gagner sa vie pour vivre. Mais bon, la majorité des gens devaient emprunter, avaient besoin des aides à l'installation. Donc pour avoir droit à ces aides-là, il fallait avoir un diplôme du niveau bac agricole, BTA à ce moment-là. Il fallait avoir moins de 35 ans et il fallait montrer que dans son projet d'installation, on puisse avoir accédé à un revenu minimum, qu'on appelait revenu de référence. Si on ne satisfaisait pas ces trois conditions, ben on n'était pas, on n'avait pas droit aux aides, donc on ne pouvait pas s'installer. Et donc nous, on s'est dit qu'il fallait sortir de ce cadre-là, de ces normes-là. Et on a donc l'association Avenir avait cet objectif-là, d'aider des installations qu'on appelait hors normes. Soit des gens qui avaient plus de 35 ans, mais qui avaient un autre métier, qui avaient envie de refaire une reconversion dans l'agriculture. Soit des gens qui voulaient s'installer sur des petites structures, donc ils ne pourraient pas prouver qu'ils allaient avoir un revenu qui était, je ne sais plus combien, à ce moment-là, ça évoluait, mais de l'ordre de SMIC à peu près quand même. Hein. Ou bien des gens qui n'avaient pas de diplôme particulier en agriculture, mais ça ne les empêchait pas de se former. Donc voilà, donc l'association Avenir s'est faite pour ça.
Alors, qui l'a fait, cette association? Elle vient de où?
Alors, au départ, c'était un militant de la Confédération paysanne, particulièrement motivé par ça, qui a travaillé sur ce projet-là avec quelqu'un qui travaillait pour une structure d'économie solidaire. Alors je ne sais pas comment on définit sa fonction, enfin un accompagnateur d'une structure d'économie solidaire qui s'appelait le GIEP. Et puis un jeune technicien agricole, objecteur de conscience, donc à trois, ils ont travaillé sur ce projet-là. Et qui a reçu le soutien du conseil régional, en tout cas de l'exécutif du conseil régional, qui était aussi sensible à ces objectifs-là. Mais après, quand il a fallu porter officiellement le projet pour le financer, c'est le CEDAPA qui a porté le projet.
D'accord.
Donc c'était quand même très proche, avec toujours la référence à l'agriculture paysanne et ses principes. Et l'association Avenir, donc, a évolué, hein, parce qu'au départ, on s'intéressait plus à la viabilité économique quand même, même si on n'avait pas les mêmes exigences, il fallait quand même que les gens puissent vivre, et moins à la préparation du projet. Mmh. L'évolution d'Avenir, c'est qu'on s'est aperçu au bout de quelques années qu'il fallait vraiment prendre le temps de réfléchir et de faire exprimer le porteur de projet sur ses objectifs de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendus et pas de déception, parce que c'est quand même des installations qui ne sont pas faciles, même souvent difficiles.
Oui, en général, puisqu'ils ne bénéficient pas des aides, ce sont des gens qui n'ont pas d'aide familiale, qui n'ont pas...
Plus, non... oui, c'est ça. En général, quand on vient d'extérieur de l'agriculture, on n'a pas beaucoup de soutien familial. L'avantage du milieu agricole, c'est que bah, les parents ont un capital. Même s'ils ont vécu mal pour avoir ce capital, ils ont quand même ce capital à la fin de leur vie. Donc ça peut aider, oui.
Alors donc, il y a cette association à venir. Est-ce que tu pourrais évoquer d'autres... donc toujours avec cette sensibilité agriculture paysanne, hein, est-ce ouais. que tu pourrais évoquer d'autres outils dont ce réseau en région s'est doté?
Donc il y a eu aussi... alors là, ce sont vraiment les associations qui travaillent beaucoup ensemble. Hein. Confédération paysanne, ADEAR, qui est la structure de formation de la Confédération paysanne, c'est d'APA à venir... Il y en a d'autres qui font partie du réseau et qui ont le même objectif, mais qui n'ont pas de lien, qui ont un lien beaucoup plus lâche avec, bon, surtout avec la Confédération paysanne. Il y a Accueil Paysan, par exemple, qui est une association qui regroupe des gens qui veulent faire de l'accueil sur leur ferme en principe. C'est pas forcément des fermes, mais quand même dans l'esprit de faire découvrir le territoire et la réalité agricole du lieu. Donc des gîtes ou des chambres d'hôtes, des gîtes ou des tables d'hôtes aussi, hein, qui fait un peu concurrence au... Je sais comment ça s'appelle, le gîte ruraux.
Gîte ruraux, c'est ça.
Ouais, voilà. Qui lui est beaucoup moins... Qui eux sont beaucoup moins exigeants sur cet aspect-là. Ils sont plus exigeants sur le côté confort, mais moins sur le côté intégration, sur rapport au territoire. Donc Accueil Paysan, qui est une association qui fonctionne toujours. Hein, il y a d'autres. Ensuite, il y a du côté... alors, on a voulu élargir aussi... enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'ai participé à la création de la FIP, hein, qui est une association de formation, mais qui n'est pas strictement agricole ni paysanne. Hein. Au départ, elle était plutôt une association de formation de paysans. Mais elle a élargi son action sur le rural. Donc qui est basé à Ambricourt, hein, dans le Pas-de-Calais, là, et qui avait comme objectif de la formation, mais aussi faire de la médiation dans des conflits ruraux entre, par exemple, des agriculteurs qui voulaient installer une porcherie et la population qui n'en voulait pas, enfin des choses comme ça, pour faire avancer un certain nombre de points qui vont dans le sens de la vie du territoire.
C'est aussi une association nationale, d'ailleurs, la FIP.
Oui.
Qui a au moins des déclinaisons en région.
Ouais, mais c'est en perte de vitesse quand même, hein, au niveau national, hein, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et qui a mis en place, avec une autre association à petit pas, un centre de test, un lieu de test, à Ambricourt, toujours. Où des maraîchers, des futurs maraîchers, peuvent expérimenter leur activité pendant 2 ans, je crois. Voilà. J'ai pas évoqué tout le courant bio, hein,
oui,
qui est important maintenant, hein, qui a pris beaucoup d'importance. parce que le courant bio n'est pas complètement n'est pas lié du tout à la Confédération paysanne. Et au contraire, on a voulu toujours marquer sa distance par rapport à ça. Pour des raisons qui les regardent, hein, pour être ouvert à tous, mais qui a pris quand même pas mal d'extensions depuis 90, hein, où avant c'était quand même très confidentiel, hein, les producteurs bio dans la région en tout cas. Maintenant ça se développe avec une structure qui accompagne bien les gens et qui a mis en place aussi une coopérative, donc qui a été un peu à la fois répondu aux besoins qui se faisaient jour, donc une coopérative Nora Bio, et puis je pense des services techniques, enfin bon. Il y a beaucoup de passerelles entre les bio, le CEDAPA, etc. Hein, beaucoup de gens qui ont suivi la démarche du CEDAPA il y a une quinzaine, 15-20 ans, sont en bio maintenant. Hein. Mais l'objectif pour nous n'était pas de faire du bio. Mais le fait de réfléchir sur son système et de voir les implications, etc., fait qu'un peu à la fois, les gens s'en sont rapprochés. Hein.
Et puis il faut reconnaître qu'il y a... des grands débats qui traversent la bio.
Bah oui.
Dit, la bio qu'on trouve dans les supermarchés, la bio qui vient de l'autre bout du monde. Enfin, il y a un certain nombre de thématiques qui ne collent pas complètement, voire même pas du tout avec l'agriculture paysanne.
Non, puis il y a un certain nombre de grosses fermes maintenant qui font une conversion bio. Donc on peut s'en réjouir parce que c'est tant d'hectares qui ne vont pas polluer, etc. Mais ils ne sont pas prêts à, pas forcément prêts à nous rejoindre, je pense pas. Hein. Mmh. Ils sont dans une autre logique sur le plan économique et social. Certains se considèrent comme des chefs d'entreprise, bon, leur choix. Hein. Et, donc voilà, donc les, je pense que les organisations bio vont être confrontées quand même à ces tensions-là.
Oui.
Parce qu'il y a vraiment des petits producteurs bio, bon, on pense à tous les maraîchers bio qui vivent quand même pas, qui n'ont pas sur l'or. Hein. Ouais. Et puis d'autres qui font des conversions sur des centaines d'hectares, à mon avis, il y a quand même des différences de, d'intérêt derrière.
Derrière le même métier, faire la bio, il y a des réalités différentes. Oui,
oui. Ouais. Mais ça, je pense que ces questions-là vont, vont ressortir de plus en plus.
Et puis donc, dans le domaine du foncier, il y a Terre de Liens aussi.
Alors, oui, alors à la fin, je dis à la fin parce que c'est pas fini, j'espère, mais à la fin de mon parcours, disons, pour personnellement, dans ce réseau-là, il y a eu la... Donc, alors c'est une constatation qui a été faite aussi par Avenir, hein. La Confédération Paysanne s'était branchée sur des luttes foncières depuis longtemps, mais pour l'installation de jeunes avec Avenir, on voyait bien qu'il y avait une difficulté d'accéder à la terre. Et donc il y a eu la rencontre entre des gens de, d'Avenir et d'une personne qui connaissait Terre de Liens au niveau national et qui avait envie de faire exister ça dans, dans la région. Et donc on a créé, donc j'étais un peu sollicité pour accompagner aussi cette démarche-là, donc on a créé la, l'association Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais.
Donc tu peux en rappeler le,
ouais,
les finalités,
les objectifs. Les objectifs. Alors l'association Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais, l'objectif c'est de faciliter à des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole l'accès au foncier. Alors ça, ça se décline en, en, essentiellement en deux actions, hein. Il y a une action qui est faite par l'association Terre de Liens qui est la sensibilisation à la question des propriétaires, des gens, des agriculteurs, etc. Alors disant que leurs terres peuvent servir à des installations qui ont un intérêt local, territorial, en bio par exemple. Et aussi de sensibiliser les collectivités. Et donc là, Nord-Pas-de-Calais fait un gros travail sur la sensibilisation des collectivités à l'installation agricole. La plupart des collectivités possèdent des terres, hein. Par les CCAS surtout, mais elles possèdent des, il y a des communes, petites communes qui possèdent 20-30 hectares de terres, qui sont louées à des agriculteurs, mais ce qu'ils ne savent pas souvent, c'est que quand les terres deviennent libres, ils peuvent installer quelqu'un dessus. Donc Terre de Liens fait un travail pour leur faire comprendre, et puis aussi montrer comment il fallait faire, quoi, les qualités sur le plan juridique, comment on pouvait s'y prendre. Ça, c'est l'association Terre de Liens. Mais Terre de Liens a aussi une foncière Terre de Liens, qui est une société à commandite par action, donc contrôlée par le ministère des Finances, etc., qui peut collecter de l'argent, l'épargne solidaire, et qui achète des terrains pour installer des gens. Alors, comment ça marche ? Un jeune a envie de s'installer en maraîchage, par exemple. Il sait qu'il y a un hectare qui lui conviendrait bien à tel endroit, qui va être à vendre. Il contacte l'association Terre de Liens. Bon, il y a bien sûr un échange sur le projet, sur les objectifs, sur les motivations, sur les possibilités. Et si on voit que le projet est viable, Terre de Liens peut demander à la SAFER, qui est une organisation officielle qui régule un peu le marché foncier, d'acheter cette terre-là. Enfin, ça se fait en plus, de plusieurs côtés, hein. Il faut à la fois que la SAFER soit d'accord pour acheter la terre et éventuellement la rétrocéder à la foncière Terre de Liens. Il faut que la foncière Terre de Liens soit d'accord pour acheter la terre aussi, puisqu'elle a son mot à dire. Et il faut surtout qu'on ait l'épargne pour l'acheter. En général, la foncière demande à ce qu'il y ait une épargne majoritaire locale. Donc l'association Terre de Liens va mobiliser les gens autour, quoi, autour du porteur de projet, autour du terrain et du lieu où il peut s'installer, pour collecter l'épargne. Et donc à ce moment-là, quand l'épargne est collectée, la foncière achète, fait un bail au maraîcher qui veut s'installer, au maraîcher ou autre, hein, et il est sous le régime du statut du fermage, donc avec un bail de 9 ans, renouvelable, sauf que ce sont des baux environnementaux. C'est-à-dire que dans le contrat de bail, on s'engage à respecter un certain nombre de normes positif pour l'environnement, comme en général ce sont des bio qui s'installent, c'est même pratiquement toujours des bio. Je me demande même si c'est pas maintenant une condition de Terre de Liens. En principe, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. Mais c'est quand même un bail environnemental, ce qui juridiquement est différent d'un bail rural classique.
Et donc en région, il y a eu des...
Et donc en région, il y a eu un certain nombre, il y a eu 6 ou 7 installations actuellement. Ouais. Okay. Mmh. Et une association qui est portée essentiellement par des urbains, c'est ça qui est intéressant. Ah. Très intéressante, oui.
Une autre association portée par des urbains, c'est les AMAP aussi.
Ouais. Mais là, je connais moins. Hein. Je sais qu'il y a des AMAP, je connais des AMAP, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc, il y a une association qui s'est toujours un peu dans la... Dans le travail, c'est la suite du travail d'avenir, hein. Je pense, puisque c'est Avenir au début qui a porté la création de la fédération départementale, régionale, comme ça que ça s'appelle.
Fédération régionale des AMAP, oui.
Fédération régionale des AMAP, oui. Et des AMAP dans la région, il y en a 20, pas loin d'une trentaine.
Oui, non, c'est ça. Hein, pas loin de 30, oui, effectivement.
Donc je sais pas, bah, les AMAP, tout le monde, faut expliquer, non?
Bah vas-y.
Ouais, alors, la MAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, sont donc la rencontre d'un producteur ou de plusieurs producteurs qui se situent dans le courant d'agriculture paysanne, dans cet objectif-là, et d'un certain nombre de consommateurs qui. Et donc, il y a un accord entre eux où les consommateurs s'engagent à payer régulièrement avec un peu d'avance. Les produits que le producteur va leur livrer. Et donc, toutes les semaines ou tous les 15 jours, le producteur leur livre les produits qui sont les produits du moment. Et puis, il y a des échanges aussi pour savoir justement comment il va, quel produit il va faire. Enfin, bon, il y a une gestion un peu commune du système de production. Hein. Pas toujours simple, mais...
En tout cas, il y a eu un effet de mode à MAP. Je ne sais pas s'il est encore actif, mais... Il y a toujours un intérêt des consommateurs vers ce type de circuit court, connaître le maraîcher, contribuer à assurer un revenu minimal.
Oui, c'est ça, de payer le prix au prix de revient qui inclut le travail, et puis aussi d'avoir un mot à dire sur les méthodes de production, sur le type de production.
Oui, voire même y participer par des chantiers à la ferme.
Y participer, oui. Voilà.
Donc effectivement, dans le bassin minier, il y a une AMAP qui fonctionne à Angres, mais il y en a aussi deux ou trois sur Béthune. Je crois qu'il y a un certain nombre de réalisations comme celle-là. Alors peut-être pour rester donc sur notre époque, hein, sur ce qui se passe en ce moment, il y a toujours cette espèce de dialectique, cette espèce de lutte entre cette grosse industrie, cette grosse agro-industrie qui avance à grands pas, hein, qui est dans l'air du temps. Tu parles de drones, tu parles de technologie, de progrès, progrès technique. Et puis de l'autre côté, les paysans qui se sont construits des réseaux, des outils, qui maintenant commencent à avoir l'assortiment d'un certain nombre de consommateurs, d'un certain nombre d'urbains. Justement, aujourd'hui, quelles sont les luttes, quelles sont les points de tension que tu peux relever, que relève la Confédération paysanne, que relève le monde paysan?
Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Bon, il y a l'exemple qu'on connaît, qui est la ferme des 1000 vaches, hein, qui a été créée par un propriétaire d'une entreprise de BTP, hein, M. Ramery, qui est symbolique. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y en a plein de petites 1000 vaches, ou de même... C'est pas des 1000 vaches, mais c'est des 1000 cochons, des dizaines de milliers. Donc c'est à la fois très important déjà que ça ne se fasse pas, ou ça aurait été très important que ça ne se fasse pas, parce que localement, ça a un impact très négatif. Hein. Il suffit d'aller manifester à Abbeville pour voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas très contents de l'installation de cette étable. Et en même temps, c'est tout à fait significatif avec un miroir grossissant, si on veut, de l'évolution de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on va vers une forme de production dont l'objectif n'est plus de produire pour nourrir les gens. On se demande même si l'objectif c'est de gagner de l'argent, l'objectif c'est d'investir une logique financière. Je suis pas sûr que la ferme des 1000 vaches soit très rentable, je sais pas, mais je suis pas sûr. En revanche, c'est bien quelqu'un qui avait beaucoup d'argent à placer et qui, qui invente un modèle qu'éventuellement il pourrait revendre. Le modèle, pas forcément les vaches, mais le modèle. Mmh. Et on voit ça dans on voit beaucoup ça dans l'industrie. Hein, on casse une industrie en la vend plus cher que une usine, on la vend plus cher que ce qui. Maintenant, je pense qu'on est un peu dans la même logique. Le but, on parle d'inversion entre la fin et les moyens. Hein.
Oui.
L'objectif, c'est de valoriser les moyens et c'est pas d'arriver à la fin. Mmh. Si la fin, c'est de nourrir les gens. Hein. Mmh. Mais il y a aussi des projets avec des milliers de veaux ou des dizaines, je sais plus, pour les porcs, pour les volailles. Enfin, toujours un peu dans le même objectif. Théoriquement, on dit qu'on fait des économies d'échelle, mais avec les animaux, les économies d'échelle, c'est pas toujours évident. Et puis en plus, ça a comme conséquence, au-delà des problèmes économiques que ça pose, la désorganisation économique, ça change complètement le rapport à l'animal, le rapport au vivant, le rapport à la terre, avec les drones par exemple. Il y a quelque chose qu'on est en train de supprimer là. Je ne sais pas si c'est volontaire, j'aurais tendance à penser que c'est volontaire. Parce qu'à partir du moment où on a cassé le lien entre le producteur et la matière vivante, que ce soit les animaux ou la terre, ou les plantes, donc la semence, on devient maître du jeu, à mon avis. Mmh. En tout cas pour ceux qui pensent qu'ils ont de l'argent à gagner là-dedans. Mmh. Ça, c'est une lutte importante. L'autre lutte dont je parlais tout à l'heure, qui est le semence, qui est toujours d'actualité, hein, et qui s'est adjointe à la lutte contre un certain nombre de traitements chimiques. Je pense qu'il y a quelque chose qui va ensemble là. La Confédération paysanne n'a jamais pris position pour une agriculture biologique. Ce n'était pas sa fonction. Et puis, on pouvait. Enfin, moi, j'étais pas vraiment en agriculture biologique. Donc, en revanche. L'action contre Monsanto, contre l'Union des industries de protection des plantes, qui sont les industries de produits chimiques, c'est important justement sur le plan de la maîtrise qu'on a de notre métier.
Le nom est charmant, hein, protection des plantes.
Oui, protection des plantes, UVP. On peut dire produits phytosanitaires, on peut dire producteurs de pesticides, mais ils disent protection des plantes. Ouais. S'ils s'appellent encore comme ça, ils changent de nom de temps en temps pour se tromper. On dit aussi phytopharmacie. Hein.
Ah oui, ouais. Ah, le langage c'est terrible pour ça.
Ouais. Donc là, au-delà de la question bio pas bio, il y a un enjeu économique et politique fort, puisque derrière l'enjeu économique, il y a une prise de pouvoir sur les choix politiques. La question foncière est quand même aussi... Alors elle est peut-être différente de ce que j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune, où on allait... défendre l'installation d'un jeune sur une ferme contre quelqu'un qui voulait la reprendre, aussi défendre un fermier qui devait être expulsé pour empêcher qu'il soit expulsé. Actuellement, la question foncière rejoint la question de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, où là, il y a vraiment une emprise foncière forte au détriment des gens qui sont sur le terrain. Et pourquoi ? Pour faire encore quelque chose de moderne, de plus technique, pour faire voler des avions qui vont purifier l'atmosphère. Et enfin voilà. Donc ces luttes-là, et il y en a d'autres. Hein. Il y en a une aussi du côté de Lyon, je crois. Et il y en a un certain nombre de lieux comme ça, avec des gros projets qui ont un enjeu à la fois local pour les personnes qui y sont, mais aussi un enjeu sur le type de développement vers lequel on veut aller. Mmh. Et donc la Confédération paysanne a intégré toutes ces questions-là. Ouais. Et mais, de plus en plus, ces luttes-là ne sont plus des luttes syndicales au sens professionnel du terme, puisqu'elles se font forcément avec d'autres gens qui veulent recréer un autre type de société donc contre l'emprise des gros pouvoirs économiques et techniques.
On peut d'ailleurs préciser que ces luttes, elles sont sévères. Hein. On peut parler de la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivas. Mais si on parle des 1000 vaches, il y a quand même des militants qui ont été emprisonnés. Il y a eu des jugements. Enfin, tout le monde dit, c'est pas seulement signer des pétitions. Là, il y a des enjeux. et des militants qui le payent, y compris physiquement.
Et c'est d'autant plus choquant que les militants qui n'ont quand même pas fait beaucoup de dégâts sont condamnés, alors que la société qui exploite maintenant la ferme des 1000 vaches est largement dans l'illégalité. Hein. Parce que je crois qu'ils sont plus de 800 vaches alors que l'autorisation c'est de 500. C'est donc légalement, ils devraient être non seulement condamnés, mais en plus obligés de réduire leur cheptel. Or, ils ne le font pas. Et apparemment, on n'a pas entendu parler que le directeur est en prison. Hein.
Non, c'est clair que là, il y a...
Donc là, il y a vraiment un gros problème. Hein,
Non, c'est de vie démocratique, tout simplement. Quoi.
Oui, oui, oui.
C'est clair. Très bien. Ben, écoute, Jean-Luc, ce que je te propose, c'est pour terminer cette interview, c'est revenir sur ce que tu viens juste de préciser là. Tu évoquais justement le fait qu'il y a des luttes qui ne sont pas seulement des luttes syndicales, qui concernent le monde paysan, mais des luttes qui concernent... tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est finalement dans quel monde on veut vivre, quoi. Dans quel monde on veut vivre, de quelle manière on veut vivre, de quelle manière on veut vivre les uns avec les autres, de quelle manière on veut vivre avec la nature. Et j'avais envie de dire, finalement, ça rejoint peut-être l'essence même de la paysannerie et du monde paysan. Comme on dit, si on repart quelques dizaines d'années, voire même plus en arrière, c'est peut-être aussi des choses qu'on peut associer au monde paysan. Tu as beaucoup parlé d'autonomie, c'est un point très fort, mais aussi de la manière d'être au monde, la manière de concevoir le monde, la manière de... est-ce que dans l'histoire des paysans, il n'y a pas aussi plein de choses qu'on a à retrouver et à apprendre?
Moi, je crois que il faut pas idéaliser non plus la paysannerie du 19e siècle ou du 18e siècle, mais... Ce qui s'est passé, à mon avis, moi, ce que je trouve grave, c'est qu'au nom d'un progrès, pas seulement économique, mais philosophique même, on parle beaucoup des Lumières. Hein. Or, quand on entend Voltaire dire que les paysans, il ne faut surtout pas les instruire, Rousseau dire la même chose, on peut se poser la question du regard qu'ils avaient sur les paysans. Donc, autrement dit, pour justifier une forme d'évolution de la société qui avait ses côtés positifs, libérateurs, etc., je ne mets pas en cause un certain nombre d'évolutions, hein, on a jeté l'opprobre sur tout un milieu qu'on considérait comme archaïque, borné, idiot, etc. Et on n'a pas cherché à voir ce qui, dans la façon de vivre des communautés rurales, avec leurs conflits, avec leur turpitude à certains moments, certainement, mais ce qui était de l'ordre d'une forme de démocratie directe. En tout cas, d'une démocratie qui n'était pas imposée de l'extérieur, qui n'était pas déléguée surtout. J'ai l'impression que quand on délègue la démocratie, elle nous est imposée par la suite, quoi. Enfin, la forme. Et donc, il y a eu toute cette perte-là. Donc, ça touche le rapport aux animaux, en relation aux animaux. Bon, on m'a appris que les animaux, c'était une machine. Hein. L'histoire de la vache allaitante qui est un moule à veau, c'était quand même clair. C'est quand même comme ça que j'ai été formé. Bon. Donc le rapport aux animaux qui était perdu, qui était méprisé, pour pas dire même ridiculisé, le rapport à la terre, où on était peut-être trop attaché à certaines terres, mais on savait au moins pourquoi, et ce qu'elles pouvaient faire et ce qu'elles ne pouvaient pas faire, et puis aussi le rapport à la communauté. alors, c'est à la fois ambivalent, hein. Le fait de faire partie d'une communauté, ça veut dire que tout ce qu'on fait a une conséquence... Sur les autres. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, en même temps, c'est un peu gênant quand on a un objectif individualiste parce qu'on le voit comme une perte de liberté. Donc je pense qu'il y avait une base sur laquelle on aurait pu progresser. S'il y avait eu, c'est une idée comme ça qui me passe par la tête, hein, mais si on avait réussi à avoir une relation dialectique entre ceux qui se réclament des Lumières et la tradition paysanne, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant. Tandis que là, ça s'est fait sur le mépris d'une catégorie de la population au nom du progrès, au nom de la liberté, au nom de tout ça, quoi. C'est très difficile parce que ce que je dis là peut être très bien récupéré par des fascistes. Hein. Ils ne s'en privent pas. Revenons au passé, tout ira bien, quoi. Donc, faut pas tomber là-dedans non plus. Hein.
Ou alors l'extrême droite qui se revendique du terroir.
Oui, exactement. Ils récupèrent tous ces thèmes-là. Donc, c'est pour ça qu'on marche un peu sur un fil quand on raconte ce que je viens de dire, là. Mais en même temps, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a eu des richesses humaines et sociales qui ont été perdus parce qu'on a méprisé tout l'ensemble. Mmh. Et après tout, bon, je sais pas, quand on lit des gens comme Zola, comme Balzac, quand ils parlent des paysans, c'est... je trouve ça assez scandaleux. Moi. Ouais. C'était jamais que mes arrière-grands-parents. Hein. Mes arrière-grands-parents n'étaient pas comme ça. Hein. Ouais. Enfin, du moins...
C'est clair, ça semble très loin et on semble avoir oublié, mais...
Bah oui.
Et puis, il y a aussi peut-être ces notions de produire ce qu'on consomme, consommer ce qu'on produit.
Ouais.
Au sein d'une famille ou au sein d'un village, d'ailleurs.
Ouais.
C'est peut-être aussi des choses qui ont aussi beaucoup à nous dire et à nous apprendre, finalement.
Ouais.
Cette idée aussi de sobriété, de...
Ouais. Il y avait la... Alors, par rapport à la production, alors les économistes, certains économistes, alors je suis désolé d'employer ce mot-là, mais parce qu'on me le reproche quelquefois, mais disent que l'agriculture paysanne est une agriculture téléologique. Téléologique, ça veut dire que la finalité est intégrée dans l'acte de production. Mmh. Quand on sait qu'on va consommer ce qu'on produit, ben on le produit de telle façon que... De telle façon qu'il nous plaise. À la différence d'une agriculture industrialisée où on produit du blé, par exemple, ou du sucre, on ne sait pas si c'est pour faire du sucre, pour faire de l'alcool, pour faire de peu importe. Le principal, c'est que je vends mon blé. Quoi. C'est que je vends mon blé. Donc il y a ce rapport-là, oui. Et puis, donc, une responsabilité. Ça implique l'autonomie implique une responsabilité. Hein. C'est pas seulement faire ce que je veux, c'est aussi faire ce que je veux. Et j'en assume les conséquences, pour moi et aussi vis-à-vis des autres. Et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui a été perdu. Ouais, ouais. Au nom de l'individualisme qui était libérateur et au nom de l'idée de chef d'entreprise qui est une forme d'individualisme dans son comportement professionnel.
Et donc, tout ça, ça s'est perdu après la guerre ou...
Ça s'est perdu progressivement. Hein. Mais je crois qu'après la guerre, il y a une décision vraiment de dire on arrête tout ça. Et je disais tout à l'heure que j'ai commencé en 64, donc j'ai lu des bouquins à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'écrits sur l'agriculture puisqu'il fallait changer. Donc, et tous les écrits, les articles... Qui traitait de la question agricole, commençait par un couplet sur Jules Méline. Alors Jules Méline n'est plus très connu, c'était le ministre de l'Agriculture de Jules Ferry en 1886-87, début de la Troisième République. Hein. Et on lui reproche, bon, pour des raisons politiques que je ne vais pas expliquer ici, mais enfin d'avoir mis en place un protectionnisme agricole. Et donc, à cause de Jules Méline, on avait permis à la paysannerie de rester traditionnel jusqu'à la guerre 40, et donc d'être responsable de la situation dans laquelle on était après la guerre, d'avoir une agriculture archaïque qui produisait pas assez pour nourrir la population. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il fallait vraiment changer. Et Méline était coupable de tout, quoi. Bon, j'ai pas envie de défendre Méline non plus, mais c'était quand même un conservateur bon teint. Mais c'était le fait d'avoir maintenu une paysannerie trop traditionnelle. Même si elle avait évolué entre les deux guerres et même un peu avant, on avait remplacé la faux par une moissonneuse-lieuse, par exemple. On avait des batteuses en grange. Il y avait quand même une modernisation, mais pas assez vite. Il y avait encore trop de paysans, en fait, qui travaillaient pour se nourrir, simplement. Hein. C'était ça, en fait, le problème. C'est que des gens, après la guerre, il y avait encore des gens qui cultivaient leur terrain essentiellement pour leurs besoins. Ça va pas, ça. Ouais. Ça va pas parce qu'ils ne produisent pas pour le marché et en plus ils n'achètent rien sur le marché donc ils ne servent à rien.
Ouais.
Et à partir du moment où on a ce raisonnement là, effectivement, il y a plein de choses qui n'ont plus de sens dans une société paysanne. Toute la gratuité de l'échange,
l'entraide.
Tout ce qui n'est pas monétarisé, or dans une société paysanne, beaucoup de choses n'étaient pas monétarisées, mais tout ce qui n'est pas monétarisé n'a plus d'intérêt. Mais après la guerre, oui, là c'était vraiment clair. Hein. La guerre 40.
Une dernière question. Tu évoques un petit peu les différentes tensions qu'il y a pu y avoir, ou les évolutions, ou les rapprochements. Le monde paysan et le monde ouvrier, comment est-ce que tu appréhendes cette... C'est je t'aime moi non plus, c'est... en même temps, il y a eu les paysans travailleurs. Il y a sans doute plein de choses très, très diverses aussi.
Oui, alors c'est assez compliqué, hein, parce qu'il y a eu toute une... à partir de... Alors certains font monter ça à Napoléon III, mais là je ne sais pas si c'est aussi clair que ça, mais en tout cas à partir de la fin du 19e siècle, une volonté politique, aussi bien des conservateurs que des républicains, de mettre une distance entre les deux. On disait qu'un paysan ne peut pas avoir la même mentalité qu'un ouvrier et les mêmes intérêts. Un paysan, c'est quelqu'un qui veut avoir de la terre. Un ouvrier ne cherche pas à avoir de la terre, par exemple. Donc c'est fondamentalement, c'est différent. Même un ouvrier agricole a toujours le rêve d'avoir de la terre. C'est un républicain qui disait ça, un intellectuel, un économiste. Alors qu'un ouvrier d'usine, ben non, donc il y a une barrière même entre un ouvrier agricole et un ouvrier d'usine. Il fallait vraiment séparer les deux mondes. Alors on trouvait des arguments, hein, des arguments, on peut toujours en trouver, ou en inventer. Mais l'objectif, c'était surtout que la paysannerie, qui à la fin du 19e siècle représentait 50% de la population, en tout cas électoralement, ben, il ne fallait pas qu'elle se laisse corrompre par les idées socialistes qui étaient en vogue chez les ouvriers. Et donc il ne fallait pas qu'il y ait, quand je dis corrompre, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein, et donc, mais c'était quand même dit dans ces termes-là. Hein.
Ouais.
Et donc, bah, il fallait expliquer aux paysans que les ouvriers sont des gens dangereux parce que s'ils se réfèrent au socialisme, c'est des gens qui vont vouloir partager le bout de terrain que vous avez eu tant de mal à acquérir avec la sueur de votre front, de votre bras, enfin bon, et etc. Enfin, les partageux, c'est pas, c'est quand même connu. On fait peur avec. Et puis, les ouvriers, c'est la lutte des classes. Enfin, le courant socialiste, c'est la lutte des classes, et la lutte des classes, c'est vachement dangereux, parce que d'abord, c'est violent, ça peut être violent, et puis on n'est plus dans notre bonne petite société paysanne où on s'entend bien, soi-disant, enfin, etc. Ça veut dire qu'il y a eu un tas de... Et on a hyper valorisé, alors surtout les conservateurs, mais même les républicains. Hein. L'enjeu pour Gambetta, par exemple, au début de la Troisième République, il n'était pas du tout assuré. Hein. La Troisième République, il y avait encore une majorité de royalistes. C'était de dire comment je fais pour que les paysans votent pour la République, alors qu'ils sont plutôt encadrés par les cléricaux et les monarchistes. Et donc on a développé toute une valorisation, un mythe paysan. Le paysan, c'est celui qui travaille beaucoup, qui travaille pour sa famille, donc il y a la valeur de la famille, la valeur du travail, et qui travaille pour un patrimoine qui est finalement la richesse du pays. Travaille pour sa terre, mais si on met toutes les terres bout à bout, ça fait une patrie. Mmh. Donc travail, famille, patrimoine. Ça, c'était, enfin, c'est comme ça que je résume les valeurs qui étaient mises en avant. Et on peut, je sais, enfin, je pense qu'il y en a qui le disent, que les ouvriers, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais. Ouvriers, le travail, ben non, même à un moment, ils voulaient plus travailler que 40 heures, donc on peut pas dire que la valeur travail soit importante pour eux. Enfin, je veux dire, des discours comme ça, on en a entendu plein, hein. La famille ne travaille pas en famille, l'ouvrier, ou rarement, et donc la famille n'est pas au centre de leur activité. Puis le patrimoine, ben non.
Et donc c'était une manière, effectivement, d'opposer un petit peu...
Oui, bien sûr, il fallait opposer, il fallait faire en sorte que ces gens-là n'avaient rien à voir. Alors, dans la pratique, ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. Il y a des endroits où les gens étaient très proches et se mariaient les uns avec les autres. Mais politiquement, ça jouait.
Et puis, la plupart des ouvriers, en tout cas à cette époque-là, avaient des racines paysannes.
Bien sûr, ben la plupart des ouvriers avaient au moins des grands-parents paysans, si ce n'est des parents. Hein. Puisque tous les paysans qui partaient devenaient ouvriers, enfin, pour la grande majorité.
Voire même, par exemple, ici, dans le bassin minier, il y avait même des difficultés pour les compagnies minières de faire rentrer les mineurs le lundi, parce qu'ils retournaient dans leur famille pour travailler à la ferme.
Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, oui. Donc c'était complètement artificiel, mais pour des raisons... pour des raisons politiques, et à partir de là, on invente des mythes, ça sert à ça, en fait.
Ouais, bien sûr. Et puis à propos de lutte des classes, le fait que les paysans ne seraient pas... seraient choqués par la lutte des classes, faut pas non plus oublier que les paysans ont eux-mêmes une tradition de lutte très, très ancienne contre les seigneuries, les jacqueries.
Ouais,
y a aussi ces...
Ah bah oui, mais... Ouais. Que ce soit au 13e, 15e, et puis la Révolution aussi. Hein.
Bien sûr.
On dit que la Révolution de 1789 s'est faite à Paris par les ouvriers et une partie des bourgeois. Mais dans les campagnes, la féodalité, c'est les paysans qui l'ont abolie. Hein. C'est pas les châteaux qui ont brûlé, etc. Malheureusement, les bourgeois de Paris n'ont pas toujours compris pourquoi les paysans faisaient ça, mais bon.
Très bien, ben écoute, on va s'acheminer vers la fin de cette émission. On a eu de longs échanges hein, qui, moi, à titre personnel, m'ont complètement enrichi. J'espère que pour nos auditrices et nos auditeurs, il en est de même. J'avais envie peut-être, Jean-Luc, de te donner la parole peut-être plus à titre personnel hein, maintenant. Je sais que tu es investi dans un projet de réalisation vidéo. J'aimerais bien que tu, si tu es d'accord, que tu nous le fasses partager, y compris que tu as besoin de solliciter des gens pour des moyens financiers. Je pense que c'est un projet qui en vaut la peine. Je te laisse en dire quelques mots.
Oui, donc c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans avec 2 personnes qui ont travaillé à venir avant et qui ont quitté la région maintenant, qui s'appelle... donc c'est le projet, c'est de réaliser un web documentaire qui s'appelle « Vous avez dit paysan ou paysanne ». Pourquoi on s'est attelé à ce travail-là? C'est qu'on se disait que, déjà, de par nos activités associatives, on rencontrait un certain nombre de gens qui voulaient devenir paysans. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est bien réfléchi? Est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils veulent devenir paysans plutôt qu'agriculteurs ou plutôt que producteurs de salades? Bon, c'est une question. Ensuite, on se rend compte que autant le terme paysan a été servé, était très péjoratif hein, et était utilisé pour mépriser une catégorie, autant de plus en plus, on lui donne un côté très positif. C'est-à-dire l'homme qui est en lien avec la nature, qui est en lien, qui respecte les équilibres, etc. Et du fait qu'il est devenu positif, bah, il est récupéré par plein de gens. Et maintenant, qu'on soit dans n'importe quel syndicat ou quel courant, et même encore plus dans les courants très conservateurs, on utilise le mot paysan. Pour dire quoi? C'est pareil. Donc on a voulu faire ce web documentaire pour montrer d'où venait ce terme-là, comment il avait été utilisé au fur et à mesure de l'histoire, hein, enfin, donc depuis la Révolution, et puis quels sont les enjeux derrière, quels sont les enjeux de l'utilisation de ce terme. Donc voilà, donc c'est un web documentaire qui demande le travail d'une personne qui est graphiste pendant au moins 8 mois, hein, ou peut-être 1 an, je ne sais pas, mais et donc qu'il faut payer. Donc on a fait un appel de financement participatif qui est terminé, mais qui n'est pas arrivé au niveau où on pensait le faire. On pensait l'atteindre, on pensait atteindre 8000 euros et on est arrivé à 4500.
Donc on peut continuer à contribuer alors.
Donc on peut continuer à contribuer, mais plus par le financement participatif, mais en soutenant directement l'association qui porte ce projet-là, qui s'appelle le Mouton Zébré.
Alors si je veux soutenir, j'envoie un chèque
au Mouton Zébré.
Au Mouton Zébré. Alors tu as une adresse à nous donner ou
C'est pas sous la main.
Bon ben on la communiquera. On la communiquera ultérieurement. Le Mouton Zébré.
C'est à Château-Chinon, mais alors le nom de la rue.
Bon, on va retrouver ça et puis l'expliciter. Ouais. Donc, on envoie un chèque au Mouton Zébré, à l'ordre du Mouton Zébré.
Ouais.
Et le projet pourrait démarrer quand?
Bah, il pourrait démarrer à l'automne, en septembre, je pense, j'espère.
D'accord. Très bien.
Il y a encore les formalités pour l'emploi. Enfin, bon, il y a quelques formalités comme ça, mais qui ne devraient pas prendre des
D'accord.
mois.
D'accord. Très bien. Eh bien, Jean-Luc, merci pour ce long entretien hein, qui était vraiment extrêmement passionnant. Donc, on est toujours sur Micro Rebelle et puis on va essayer maintenant d'avoir d'autres émissions peut-être pour approfondir ces différentes thématiques-là. En tout cas, là, on a au moins une bonne base de départ. Merci, à très bientôt.
Eh bien, cette série d'émissions touche maintenant à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Concernant ce que vient d'évoquer Jean-Luc, je vous communique l'adresse à laquelle vous pouvez faire parvenir vos chèques pour contribuer au webdoc. Vous avez dit paysan, paysanne. Les chèques sont à libeller à l'ordre du Mouton Zébré et à envoyer à l'adresse suivante. Le Mouton Zébré, 7 rue Jean-Marie Thévenin, 58-120 Château-Chinon. Avant de nous quitter, je vous propose un dernier témoignage. Pour la première émission, nous avions commencé par le témoignage de Justine, jeune paysanne. Eh bien, nous allons de même terminer cette série par un autre témoignage de jeune paysanne, celui de Karine. Bonne continuation à toutes et à tous, et à très bientôt sur Micro Rebelle.
Bonjour, je m'appelle Karine, je suis en voie d'être paysan, je suis en train de m'installer avec mon compagnon dans le début de la Vénois, en maraîchage biologique et production de plantes aromatiques et médicinales. C'est une reconversion. Avant, j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'édition. Et j'habitais à Paris. Voilà. Et par ailleurs, je suis bénévole et administratrice d'une association qui s'occupe d'accompagner les gens, dans mon cas en fait, qui veulent s'installer en agriculture mais qui ne sont pas issus du monde paysan et qui ont des projets d'installation un petit peu atypiques par rapport au monde agricole traditionnel.
Très bien, alors comment s'appelle cette association ?
Elle s'appelle Avenir 5962.
Peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est, ça concerne qui, qu'est-ce que c'est que ces projets dont tu nous parles, le tien notamment, puis d'autres, dont s'occupe Avenir ?
Donc c'est une association qui a été créée pour donc soutenir les projets d'installation en agriculture paysanne. Et donc les projets dits atypiques, enfin, c'est la vision de la Chambre d'agriculture en fait. Donc atypique, il faut savoir que le maraîchage est déjà considéré comme atypique, même s'il l'est sans doute de moins en moins et que les institutions commencent à mieux connaître. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système de ferme polyculture-élevage à grande échelle avec des recherches de profit. Enfin, voilà. C'est vraiment une agriculture paysanne plus à taille humaine avec une volonté un peu de progrès. De progrès social, enfin de d'épanouissement individuel aussi, enfin voilà, des recherches en fait, beaucoup de porteurs de projets qui vont dans cette direction recherchent aussi un meilleur équilibre de vie. Souvent ils ont quitté des boulots un peu qui étaient bien payés, mais où la part humaine était beaucoup moins importante.
Ce qui est ton cas typiquement? Tu disais que tu viens de l'édition.
Un petit peu. Oui, moi j'étais pas dans un cas extrême. C'était mon boulot, était pas si mal. C'est juste que moi j'en avais marre de la ville. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. C'est vrai que la structure entreprise me convenait à moitié aussi. Mais j'étais pas non plus dans le pire des cas. Mais oui, j'avais un désir de retourner plutôt à la campagne. Au départ, je pensais même bosser à distance. Et puis finalement, le défi de créer son activité et d'être un petit peu autonome. M'a tenté, quoi.
L'a emporté.
Voilà.
Alors justement, ben, donc je suis jeune, ce que je fais dans mon boulot me plaît pas, j'envisage de faire du maraîchage, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais voir Avenir, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que va faire Avenir pour moi?
Avenir, dans un premier temps, va... Tout dépend, enfin si c'est vraiment juste une idée qui me passe par la tête, Avenir va commencer par m'inviter à creuser un petit peu, c'est-à-dire en allant voir un petit peu la réalité sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de rêves en ce moment sur le monde agricole, on projette beaucoup beaucoup de choses qui ne correspondent pas forcément toujours à la réalité, c'est un milieu qui est quand même pas facile, même si on n'est pas dans le milieu agricole traditionnel, c'est pas un travail très, très facile. Et d'ailleurs, moi, je remarque un paradoxe, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des burn-out et des gens qui étaient vraiment pas bien dans leur travail, qui arrivent dans un changement, qui sont déjà fragilisés et qui finalement veulent choisir un métier où ça va être aussi très dur. Enfin, c'est un peu... Mais après, pour certains, ça prendra, pour d'autres, non. Et parfois, ça sera juste une étape vers autre chose. Et c'est plutôt, je pense que ça marque un retour vers un désir de plus d'authentique.
Alors, tu parles d'un métier très dur. Qu'est-ce qui est dur dans l'activité de paysan? C'est le temps de travail.
Temps de travail est assez important. Après, je pense que la densité du travail est peut-être par contre moins importante pour ce qui est travaux des champs, par exemple. Moi, je sais que je vais passer beaucoup plus facilement 8 heures dans le champ que 4 heures devant mon ordinateur. Enfin, en termes de charge mentale, c'est pas la même chose. Après, ce qui est difficile, c'est de tout combiner, parce que surtout, on est beaucoup dans des projets vente directe, on veut diversifier, faire de la transformation. Enfin, en gros, quand on arrive dans un projet comme ça, vu l'extérieur, on a envie de tout faire d'un coup. Enfin, moi, c'est vraiment mon cas, faire des plantes, faire les transformer, les vendre en direct, voilà, faire des formations, des animations, enfin... Donc voilà, déjà, il faut savoir faire la part des choses dans tout ça, savoir les combiner. Donc il ne faut surtout pas commencer en faisant tout. voilà, donc ça, c'est quand même un vrai travail de gestion, qui est quand même bien prenant aussi, sans parler de toute la comptabilité et tout ça, et la gestion d'entreprise. Et puis, surtout les premières années, il y a quand même tout ce qui tourne autour de l'installation, qui est particulièrement difficile, en fait. Les recherches de terre, les confrontations, pas forcément en opposition, mais le se confronter aux réalités des institutions agricoles, faire toutes les démarches, c'est pas les démarches les plus évidentes qui soient, quoi. C'est un peu, je pense que dans l'administration, l'agricole est assez haut placé pour sa complexité.
Très bien. Alors donc justement, hein, avec un petit peu ta sensibilité à venir, puis ta sensibilité pratique, hein, avec ton compagnon, comment est-ce que tu vois d'une manière générale la réalité du monde paysan, son évolution aussi, son devenir, qu'est-ce qui prédomine chez toi ? C'est l'optimisme, c'est un questionnement permanent
Bah c'est un peu les deux, enfin, je dirais pas pour le monde agricole plutôt que le monde paysan. Moi j'ai l'impression qu'on va dans deux directions en même temps en fait. Qu'il y a d'un côté les très gros et l'agro-industrie qui ne fait que augmenter et qui est de pire en pire. Et de l'autre côté, il y a un retour, justement, avec des petits projets, les consommateurs qui ont envie de retrouver le lien avec les agriculteurs, et inversement. Et donc ça, je trouve ça super positif. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans ce sens, pour peu qu'on ne mette pas trop de bâtons dans les roues. Je pense que ça ne peut être que... Je pense que on va vraiment évoluer dans le bon sens. Tout dépendra après, évidemment, des décisions en haut lieu, si vraiment ils sont décidés à laisser faire ça ou pas, quoi. Mais a priori, si la dynamique qui est en route continue, c'est plutôt positif, quoi. Mais après, c'est vrai que de l'autre côté, il y a quand même toute une part du monde agricole et agroalimentaire qui est bien loin de tout ça. Et ça, il faut pas se le cacher non plus, quoi. Et on n'est pas encore prêt de nourrir tout le monde en France avec la petite agriculture biologique ou paysanne, quoi.
Bien, je te remercie. Alors, une toute dernière question, peut-être très, très pratico-pratique. Hein. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'activité que tu as avec ton compagnon? Tu parlais de vente directe, c'est du maraîchage, tu parlais de plantes aromatiques. Concrètement, vous faites quoi? Vous commercialisez quoi? C'est où? On peut vous trouver où? On peut vous soutenir comment? Enfin.
Alors nous, on a créé une petite structure qui s'appelle le panier de la Tournichette à Warny-le-Petit, donc c'est entre Valenciennes et Maubeuge. Enfin, juste au milieu, c'est vraiment les portes de la Vénois. Donc on cultive surtout des légumes sur à peu près, pour l'instant on a 8000 m2, et dont une parcelle qui est à 10 km de chez nous, c'est pas très pratique, mais on a les serres tout près de la maison, ça c'est mieux. Donc on cultive, on a au moins une trentaine de légumes, hein, ça, de cultures plus classiques de conservation, carottes, pommes de terre, betteraves, jusque des cultures de serre comme tomates, poivrons, aubergines, voilà. On essaye d'avoir des variétés un peu diversifiées, parce qu'on vend, en fait, on fait donc de la vente directe, essentiellement sous forme de panier, même si pas seulement. On fait pas partie d'une AMAP, mais on a gardé un peu le système de panier qui nous permet d'optimiser au mieux l'écoulement de notre production. Comme on a une très petite surface, on peut pas trop se permettre d'avoir de pertes. Et du coup, on propose un panier toutes les semaines à 15 € ou à 20 €, et puis les gens disent ok ou pas. Enfin, eux n'ont pas d'engagement. Et voilà, ils choisissent le panier. Après, s'ils veulent prendre quelque chose en plus, ils peuvent, et c'est payé en plus. Enfin, il y a une liste de légumes au détail aussi. En vrai, on remarque que 80% des gens au moins prennent le panier, quoi. Donc, voilà, ça leur permet de découvrir des légumes. Moi, je leur fais une petite newsletter toutes les semaines pour leur expliquer un peu la vie de la ferme, les légumes, comment les cuisiner, tout ça. Et on sent vraiment qu'ils ont envie de, ils accrochent à ça, ils ont envie de redécouvrir, quoi.
Et tu parles de newsletter, il y a aussi un site internet?
Il y a un blog, oui. Enfin bon, après, concrètement, il reprend la newsletter. Au début, il y avait d'autres choses, mais là, c'est rare qu'il y ait un nouveau.
Mais peut-être pour le signaler aux auditrices, aux auditeurs.
Oui, voilà. Ouais. Bah, on n'a pas encore réussi à le mettre sous un vrai nom de domaine. Donc, c'est tournichette.wordpress.com. Mais si on tape tournichette sur Google, on tombe forcément sur nous.
Très bien. Bah, merci, Karine. Voilà. Et puis, bonne continuation et bon courage.
Merci.
Ce micro-rebelle reportage se termine.
Retrouvez tous nos reportages sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
À nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
salut à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau Micro-Rebelle Reportage.